Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Un changement de cap de vie, mais véritablement dans la sérénité. La sérénité grâce à quoi ? Grâce au changement de paradigme. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Sana Marchoudi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Lala Sana ?
Merci beaucoup à toi de m'inviter et ça va très très bien, merci beaucoup.
Ah ben, plaisir de te recevoir et de découvrir finalement cette femme au multitalent que tu es. Tu es consultante stratégique et RH, tu es dans le développement des talents et du leadership, tu t'intéresses également aux soft skills et à la performance collective, tu es post-maître PNL et sans oublier que tu es également libraire.
Exactement.
Et puis tu as eu aussi un vécu dans la finance.
Exactement.
Waouh. Alors, justement.
Une expérience financière.
Une expérience financière. Alors, raconte-moi tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on devient encore libraire ? Est-ce que c'est un métier qui attire toujours ?
Normalement non.
Ouais.
Aujourd'hui, le business tel qu'il est conçu dans l'esprit des gens, c'est un business qui doit être porteur de richesses, doit être aussi générateur de beaucoup de revenus. Aujourd'hui, tout le monde veut gagner, tout le monde veut entreprendre, faire du business pour gagner beaucoup d'argent, alors que la librairie, c'est pas autour de l'argent, mais c'est autour de l'impact, autour du métier lui-même. Mmh. Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier que l'on va pas trouver dans les business model que l'on vend dans toutes les formations d'entrepreneuriat et tout ça. Donc voilà,
et alors,
c'est un métier assez choisi.
C'est un métier choisi. Je me pose la question, est-ce que tu as hérité d'une librairie ?
Pas du tout.
Pas du tout, même pas.
Mais j'ai hérité de l'amour du livre, voilà.
Ok. Alors, à quel moment de ce parcours es-tu devenue libraire ?
En reconversion professionnelle, bien entendu, après une vingtaine d'années passées dans la finance, dans le monde de l'entreprise, et puis en regardant un peu une éventuelle reconversion professionnelle, je me suis dit que je me convertis, mais moi je me convertis doublement. D'abord en consulting pour faire profiter un peu la PME et la petite entreprise de mon expertise ou de ma spécialité en analyse opérationnelle, stratégique et RH, mais aussi en faisant quelque chose qui me tient à cœur. Ou avoir pour moi, la librairie, un peu, c'est un métier de la retraite.
Oui.
C'est un métier de fin de vie ou c'est un métier un peu de retraite créative, voilà.
Alors déjà, le besoin de reconversion professionnelle, il est venu comment ?
Eh bien, il est venu à l'âge de 40 ans, comme toutes les femmes de ce monde.
Oui.
Alors, il est venu après une période, bien entendu, une période de stagnation, mais c'est aussi une période de maladie. Bien entendu, donc c'était une maladie où il fallait faire un peu tout le protocole que l'on connaît. Et puis on se pose beaucoup de questions sur son mode de vie, sur
le sens la famille, de la vie,
sur le futur, sur le sens de la vie. Et puis à un moment donné, on se dit et si on n'était pas vraiment dans la bonne case, et s'il fallait changer quelque chose pour changer quelque chose.
Oui, oui.
Voilà.
Et alors, cette maladie, au final, aujourd'hui, tu la remercies d'être venue,
aussi malheureuse et compliquée soit-elle. Aussi malheureuse et compliquée et gentille aussi, hein. Parce qu'elle m'a laissé le sourire, la voix, tout ça. Donc, ouais, voilà, je la remercie.
Ouais, ouais, ouais. Alors, justement, quand on sort d'une maladie, d'un protocole, etc., comme tu l'as très bien dit, ce qui n'est pas facile, ce qui est lourd, ce qui prend plusieurs mois, et qu'en même temps, on est en train de se dire, je change de voie professionnelle. Ouais. Et quand on change de voie professionnelle, on se change aussi de mode de vie, en fait. On change aussi de rythme de vie, on change de repères, on change toutes ces choses-là. Est-ce que ce n'est pas aussi se mettre un stress à un moment où le corps sort d'un stress physique ?
La vérité, moi, je ne l'avais pas vécu ainsi. Parce que, en fait, c'est comme si j'ai remplacé, je l'avais lu quelque part. En fait, c'est comme si j'ai remplacé le temps court par le temps long. Et le temps court, c'était tout ce temps que j'ai vécu, rythmée par les reporting, par les projets, par les prérequis opérationnels, et puis de profiter d'un temps long qui est ainsi du consulting, de pouvoir concevoir une formation, un plan de formation, des idées, des sujets, de pouvoir aussi lire dans la librairie, pouvoir profiter de cet environnement. Donc c'est un peu, je suis passée du temps court au temps long. C'est vraiment faire les choses dans le je sais pas si j'ai bien expliqué. J'ai appelé ça, moi, le temps court et le temps long, et je me suis vraiment retrouvée.
Ouais.
De faire des choses qui prennent du temps et qui ne sont pas rythmées. Dans une même journée, ce n'est pas très rythmé par des
engagements,
des prérogatives, voilà, opérationnelles.
Ouais. Alors, désolée de ramener, en fait... la beauté de ce ressenti à la réalité de la vie.
Oui.
Voilà. Alors, quand on traverse une maladie longue, on a une assurance maladie, on a une prise en charge, on a toutes ces choses-là qui viennent avec un métier stable. Quand tu as changé de cap de vie, tu n'étais plus dans cette stabilité.
Oui,
bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est rentré dans l'équation?
En fait, je vais d'abord aller vers la première partie de ta question, et pour dire que oui, avec l'assurance maladie et la stabilité, mais heureusement que j'avais ça. Et puis à un moment donné, j'ai pensé à toutes ces personnes qui n'avaient pas ce privilège d'avoir une assurance maladie, une couverture d'assurance. Et donc après moi, c'était effectivement, j'allais me reconvertir, mais j'allais quand même garder une assurance maladie. C'était la top priorité à ce moment-là.
Yeah.
Parce qu'aujourd'hui ça existe, et entre dresser ses priorités dans la vie, entre acheter ceci, voyager, faire cela ou cela, chacun dresse ses priorités. Il y en a qui vont aller payer quand même une assurance maladie assez costaud pour se prémunir d'une éventuelle maladie, mais effectivement, c'est en termes de priorité. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment-là.
Oui.
Et à ce moment-là, effectivement, j'avais l'assurance maladie qui était top priorité pour moi.
Absolument, absolument. Ouais. C'est une réalité aussi, en fait, dans la reconversion professionnelle.
Effectivement, et je pouvais ne pas faire beaucoup de choses, mais régler la redevance mensuelle.
Oui, oui.
C'était quelque chose de très important à ce moment-là. La priorité a perdu un peu de son rang jusque-là, mais bon... C'est comme si j'ai oublié un peu, mais bon, mais à ce moment-là, c'était prioritaire.
C'était prioritaire, absolument. Alors, la reconversion professionnelle, donc il y a eu la réflexion pendant cette traversée, entre guillemets, du désert, comme ces retrouvailles avec soi. Mais après, il faut passer à l'action. Et l'action, tu l'as construite comment?
L'action, elle a commencé, comme j'ai dit, c'était une double reconversion. C'était d'abord le cabinet de consulting où je devais m'appuyer sur des cabinets un peu de grands cabinets connus sur la place, où je pouvais vendre mon expertise et mon temps, bien entendu. Et puis, bien sûr, la boutique, la librairie, parce que je voulais que ce soit un espace assez... assez vivant.
Je ne voulais pas
que je fasse du commerce de livres, mais je voulais que je fasse de la librairie, un endroit où l'éveil des consciences, un endroit où l'on se sent bien, un endroit où l'on peut sentir, goûter et voyager un peu. Donc c'était un peu en parallèle, et c'était la période du Covid.
Okay.
Pile avec la période du Covid, donc c'était aussi en même temps une double contrainte, bien entendu. On était enfermé, on avait le cabinet, mais on ne pouvait pas commencer à travailler, on avait un peu le magasin, les travaux en cours, mais on ne pouvait pas quand même bien commencer. Donc c'était une période aussi qui nous a donné beaucoup aussi de recul, beaucoup de réflexion, et qui m'a permis, moi et mon mari, je parle toujours nous, parce que mon mari, il m'a aidé énormément dans tout ce processus. Donc aujourd'hui, il me dit, tu n'es pas le libraire, tu es le libraire, moi je t'aide à la librairie.
Oui.
C'était le Covid, cette période de calme, je dirais, moi, c'était une période de calme, elle nous a vraiment aidé un petit peu à revoir, on va faire les fine-tuning de comment cela pouvait ou devait être.
C'est angoissant aussi de voir que finalement toutes les activités que tu voulais entreprendre s'arrêtaient et qu'il n'y avait pas ce... Non?
Oui, au début, oui. Au début, oui, c'est humain, c'est naturel, parce que on est en train de planifier, on veut aller, on a des pas bien mesurés, puis après, on se retrouve avec des contraintes qui sont en dehors de notre volonté. Bien sûr, on est perturbé au début, mais vite, c'est en fait, on fait un peu la courbe du choc, et vite, vite, il faut s'en sortir.
Oui.
C'est ça, chacun sa capacité, en fait, son intelligence de sortir du choc et d'aller vers l'acceptation, d'aller vers l'action. De qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que je dois moi apporter à ce que je vis. Mais rapidement, on peut faire la part des choses et se demander effectivement où est-ce que qu'est-ce que je peux faire? Parce que si moi je dis, vous savez, pour la boutique, alors je dis, si la boutique a été ouverte bien avant le Covid, il y aurait certaines choses qui auraient été très différentes de ce qu'elle est aujourd'hui.
Dans quel sens?
Parce que le Covid,
Oui.
elle nous a un peu ramenés à l'essence. J'allais aussi aller payer le doré, le machin, vous
Oui.
voyez, c'est un peu travailler sur l'extérieur, travailler sur le bling-bling, peut-être, travailler sur le.
Les
Mais
apparences.
voilà, plus sur l'apparence, mais après, pendant la période du Covid, un peu recentrer et dire la librairie, elle a quand même une ADN, elle ramène quand même un impact, c'est un magasin. Je vends pas du bling-bling, je vends du livre, et puis du livre, comment je voudrais que ça soit, et puis on a tout ramené à l'essentiel. Parce que d'abord, on était dans une étape business pas très verte, quoi, pas très fructueuse. Et c'était un petit peu ramener tout à l'essentiel. Aujourd'hui, je ne regrette aucun des choix que j'ai fait pendant la période de Covid, la vérité. Aujourd'hui, la librairie, elle est ce qu'elle est, on ramène tout à l'essentiel. Voilà.
Exact. Et alors, justement, toi, tu es libraire, mais tu es aussi organisatrice professionnelle de clubs de lecture.
Oui, effectivement.
Alors, ça fonctionne comment? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens continuent à lire?
Effectivement, oui, les gens continuent à lire et je peux vous dire que le livre, il a encore minimum une cinquantaine d'années d'avenir devant lui. D'ailleurs, il y a une dizaine d'années, on s'est mis tous au PDF. Là, on retourne au vrai livre. Mais la lecture du livre en général, elle est en constante évolution. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, si vous suivez les réseaux sociaux et tout, il y a deux modes incroyable, qui s'appelle le Bookstagram et le BookTok. C'est vraiment c'est la
Oui.
promotion du livre aujourd'hui. La jeunesse, la jeunesse, elle y va à fond et on voit de plus en plus de contenu sur le livre. Je pense que même avec l'existence de toute cette panoplie de sources de connaissances, de sources de données, de sources d'informations, le livre reste quand même un outil incontournable pour l'éveil de soi, pour l'apprentissage et pour le partage de connaissances. Il
Alors
y a
qu'on
des choses, aujourd'hui qui sont dans des livres que l'on ne peut pas trouver sur Internet.
sur Internet, alors qu'on prédisait au livre sa fin, en fait.
Pardon?
On prédisait au livre, au papier, sa
Oui.
fin il y a quelques années.
Oui, la vérité. Oui, on peut prédire, bien sûr, mais ça reste quand même.
Oui, exactement.
Nous qui sommes de l'autre côté, on voit bien qu'il y a quand même il y a quand même un retour pour la lecture.
Oh.
Aujourd'hui aussi, il y a aussi un effet de mode. On est lecteur, ça veut dire on est bien, ça veut dire
Ouais. Alors
ça veut dire on est
justement,
bien. Oui.
dans ton travail avec en tant que consultante, tu interviens au sein des entreprises. Est-ce que tu te bases aussi sur le livre? Est-ce que tu organises des ateliers de lecture en entreprise?
Oui, bien sûr, bien
Oui.
sûr. J'organise des ateliers de lecture en entreprise, surtout en ce qui concerne la gestion de soi, gestion de relations, gestion de conflits, le leadership de soi, le leadership féminin, la gestion d'équipe, tout ce qui est nouvelle manière de travailler un peu sur le développement personnel et professionnel, maximisation du potentiel humain. Je dis que il y a beaucoup de lectures qui peuvent être faites en entreprise aujourd'hui et qui peuvent être très très bénéfiques pour le développement des compétences.
Alors, la PNL, tu as rencontré
Oui.
ça comment? La programmation neurolinguistique.
Neurolinguistique. Ben, je l'ai rencontré chez mon ancien employeur. C'était le Suédois, le géant suédois. Et donc, je l'ai rencontré dans au détour d'une des formations que j'avais suivies en coaching et management. Et depuis, je ne l'ai pas quitté. J'avais découvert. Puis, j'ai trouvé qu'il y avait une école au Maroc qui pouvait offrir un même cursus. Et j'y suis allée par curiosité et j'y suis restée par pure passion. C'est la PNL.
Alors, tu penses que cette formation y est pour quelque chose dans comment tu t'es reprogrammée pour sortir du salariat et aller vers l'entrepreneuriat pendant une période où, comme tu l'as dit tout à l'heure, la COVID, c'était une période de doute absolu?
Je pense que effectivement que c'est mes formations, que ce soit en PNL ou que ce soit en analyse transactionnelle, en fait, tout ce qui est toutes les formations nouvelles que j'ai suivies, en fait, elles m'ont aidée effectivement à être la personne que je suis aujourd'hui. Elles étaient un peu complémentaires, c'est comme un puzzle. Et j'étais complémentaire en fait, si vous aviez connu ça d'il y a 20 ans, vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence. Il y a du foncier qui est resté, mais il y a beaucoup de changements qui ont apparu depuis, et que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de connaissance de soi aussi, en termes de gestion des priorités, de gestion des objectifs, de la vie. Je veux dire oui, ça a beaucoup d'impact sur ce que je vis aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que tu dirais ?
Tout ce que j'ai étudié. Pardon ?
Qu'est-ce que tu dirais qui a vraiment changé chez Sana ?
Ce qui a vraiment changé, c'est ma relation à moi-même.
Oui.
Ça a beaucoup changé, ma relation à moi-même.
Elle est comment aujourd'hui ? Elle était comment avant ?
Alors, elle était comment avant ? Avant, elle était un peu dysfonctionnelle. Elle était dans le trop d'objectifs, dans le veut faire, veut atteindre. C'est pas un manque d'ambition, mais aujourd'hui c'est vraiment dans le qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire.
Ah Tissana, j'adore ce que tu dis, c'est pas un manque d'ambition. Bah, tu sais pourquoi? Ça me fait sourire.
Oui.
Parce que justement, quand on lâche prise, on se dit, est-ce que j'ai moins d'ambition qu'avant? Waouh! Et ça résonne tellement avec moi ce que tu viens de dire, c'est pas un manque d'ambition. Et des fois, moi-même, je dis, ok, je suis dans une autre dynamique. Mais est-ce que...
Oui.
Alors, pour être honnête avec toi, je suis passée de l'autre côté. J'ai eu la période de réflexion de est-ce que c'est moins d'ambition? Est-ce que tu as fait tout ça pour ça? Est-ce que? Et puis finalement, maintenant, je suis arrivée, et corrige-moi, et dis-moi si toi aussi tu te retrouves dans ce que je te dis. Et là, je suis arrivée à un état d'esprit où finalement, ma réussite ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de chez moi. Mm-hmm. De mon foyer, de ma personne, mais c'est mon ressenti à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur plutôt que ce que l'on voit à l'extérieur.
Oui, je pense que c'est ça, effectivement, parce qu'à un moment donné, se lâcher prise, un peu, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un retour à l'essentiel.
Ouais.
Qu'est-ce qui est finalement très important pour moi? Et les priorités, elles changent rapidement de place. Quand je dis priorité, je dis toutes nos priorités de la vie qui sont liées à nos valeurs profondes. Et là aussi, je rajoute un peu, c'est aussi de la PNL, c'est cet alignement entre mes valeurs, entre ce que je suis, ce que je pense et à ce que je crois. Et donc, c'est un peu cet alignement qui fait qu'on commence à changer un petit peu. C'est vrai que beaucoup de personnes qui font commencent à faire du développement personnel, peut-être qu'on pourra les trouver un peu différentes, distantes, parfois. Peut vous trouver superficielle, d'autres peuvent vous trouver vraie, foncièrement vraie, mais c'est juste leur façon de poser le regard sur vous, mais en fait, vous êtes en train de devenir une personne qui vous ressemble le plus. C'est ça. Et après, plus rien n'est plus important que votre vraie paix. Je pense que c'est ça qui change un petit peu quand on parle un peu de lâcher prise ou de ce manque d'ambition. Il y en a qui voient qu'on manque d'ambition, mais peut-être que l'ambition ne fait plus partie de moi.
Oui, et c'est un droit.
Peut-être que je conçois moi l'ambition d'une autre manière.
Manière, oui.
C'est une autre manière de voir l'ambition.
Oui, absolument, absolument. Alors, est-ce que ça a changé aussi peut-être en tant que parent, on a envie du meilleur pour nos enfants et parfois on a tendance à recalquer le modèle d'éducation qu'on a reçu, celui de la réussite, celui de la performance, etc. Est-ce que ça a changé un peu ta façon de voir l'avenir de tes enfants, leur réussite?
Effectivement, moi, la vérité, moi, juste un petit peu avant la PNL, comme j'ai dit, je suis restée un peu foncièrement parce que j'étais peut-être prête à ce nouveau mode de vie. Alors, pour mes enfants, depuis leur jeune âge, comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas par manque d'ambition, mais je vous ai dit aussi que on ne peut être que ce qu'on ne que ce qu'on peut être. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le pouvoir. Qu'est-ce que je suis réellement capable d'être? Parce que parfois, on peut courir dans tous les sens, on peut faire beaucoup d'efforts, mais moi, je suis aussi une personne très croyante et pour moi, je ne peux être que ce qui m'est destiné d'être par Allah. Je veux dire, même si je veux faire bien sûr, moi, je fais ma part du gâteau. J'accomplis, je fais l'effort, je fais tout ce qui me revient, mais après, il y a quelque chose qui ne me revient pas.
Qui ne m'est pas destiné.
Il y a quelque chose qui ne m'appartient pas de faire.
Ouais.
Moi, je fais tout ce que je... Mais il y a une part du puzzle que seul Allah peut décider. Et donc, même avec mes enfants, la vérité, aujourd'hui, j'ai une relation un peu... Parfois, je peux être la maman indigne pour l'école des enfants.
Oui.
Parce que... Même pour mes enfants, je n'ai jamais mis de barrière, je n'ai jamais mis d'objectif, je n'ai jamais mis de pression.
Ouais.
Et jusque-là, ils se sont toujours sortis très bien.
J'aime bien quand tu dis pour l'école, je suis une mère indigne parce qu'il n'y a pas ce. Oui, je vois parfaitement ce que c'est.
On va à l'école pour apprendre, pas pour avoir de bonnes notes.
Bonnes notes, absolument. Leila Sana Marchoudi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Avec plaisir.
C'était un plaisir.
Avec plaisir. C'était un plaisir.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.